Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Il y a quelques mois, nous avions reçu Barbara Cassin de l'Académie française pour parler de son dernier livre. Nous avions alors eu l'idée de consacrer une nouvelle émission à un projet qu'elle porte depuis 2017, celui des Maisons de la Sagesse. La pratique de la traduction se trouve au cœur de ce réseau de lieux et d'actions destinés aux migrants. Elle ouvre naturellement à la différence et à la complexité. Cette aventure se raconte dans un livre paru le mois dernier aux éditions Bayard, « Les maisons de la sagesse traduire, une nouvelle aventure ». Nous sommes heureux de recevoir ces deux auteurs qui font partie du noyau des fondateurs, Barbara Cassin, philosophe et philologue, et Daniel Wozny, spécialiste du patrimoine et de la coopération culturelle. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, nous allons parler du nom de cette association, les Maisons de la Sagesse Traduire. Vous avez choisi de vous inscrire dans une tradition ancienne venue du monde musulman médiéval. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce modèle ?
Je crois que
Daniel Wozny.
Oui, les Maisons de la Sagesse étaient des lieux où la traduction, en fait, a permis de faire avancer les connaissances et a permis aussi à des gens d'origines différentes, de se parler, de travailler ensemble. Et c'était aussi des lieux où l'interdisciplinarité était une sorte d'obligation, j'allais dire scientifique, et où recherche fondamentale et recherche appliquée, comme on dirait aujourd'hui, n'étaient pas séparées. C'est-à-dire qu'à côté des savants qui travaillaient sur la médecine, il y avait des expérimentations dans les hôpitaux qui étaient annexées aux Maisons de la Sagesse. Même chose pour l'astronomie. Donc il y avait toutes ces dimensions de la traduction, de l'interdisciplinarité et puis de l'inscription dans la vie, dans la vraie vie. Ces trois éléments nous ont semblé extrêmement importants.
Et simultanément, voilà. C'était un mélange de culture et de tradition, un mélange de langue évidemment, puisque c'est autour de la traduction, et un mélange de religion. C'est-à-dire qu'il y avait là une communication vraiment exceptionnelle entre l'ensemble des religions qui se traduisaient les unes dans les autres, l'ensemble des textes culturels, fondateurs, on va dire classiques, des différentes cultures, qui se traduisaient les uns dans les autres, et donc qui se réinventaient dans d'autres langues. Donc, simultanément, il y avait un échange générationnel, car toutes les générations travaillaient ensemble. Donc c'est tout ce mélange qui, au fond, nous a attirés et sous l'égide duquel nous avons eu envie de nous placer.
Alors aujourd'hui, beaucoup d'expériences sont menées autour du dialogue entre les cultures. Vous avez choisi de placer la traduction au cœur de votre projet. Pourquoi ?
Parce que quand on ne se comprend pas, il ne se passe rien. Mais quand on comprend qu'on ne se comprend pas, là, il commence à se passer quelque chose. Du coup, ce n'est pas simplement la traduction, comme savoir-faire avec les différences. C'est aussi la question de l'intraduisible. C'est-à-dire, voilà, on s'arrête, on comprend qu'on ne se comprend pas si facilement. Et alors, véritablement, on commence à travailler ensemble.
C'est un chemin d'initiation, quelque part.
Oui, on peut dire ça. C'est un chemin, disons, de compagnonnage, en tout cas.
Oui, d'hospitalité.
D'hospitalité partagée, avec justement le double sens du mot hôte, celui qui accueille et celui qui est accueilli.
Alors justement, quand un hôte, qu'on appelle ailleurs un migrant, arrive chez vous, l'une des premières choses que vous lui remettez, c'est un glossaire bilingue pour s'y retrouver dans les méandres de l'administration française. Comment est-ce que vous concevez ce document ?
Pour l'instant, on ne lui remet pas. Hein. On le fabrique.
On est en train de le fabriquer. Nous sommes à la moitié du chemin, disons. Nous en sommes à la lettre L.
Et quelle est votre méthode de travail, du coup ?
Bien, nous avons commencé par travailler avec les personnes qui accueillent, c'est-à-dire avec la mairie d'Aubervilliers. Donc, nous avons travaillé avec tous les agents de l'administration chargés de l'accueil des étrangers, avec la police municipale, avec les membres des associations, pour identifier avec eux là où étaient les difficultés. Et on s'est rendu compte que déjà nom et prénom étaient une chose compliquée. Et que l'incompréhension était réciproque, en fait. Les gens qui arrivent ont des difficultés à remplir les formulaires et ceux qui accueillent se sentent parfois humiliés parce qu'ils ont le sentiment que les étrangers se moquent d'eux. Or, il n'y a pas ce genre de relation, en fait. C'est simplement une relation d'incompréhension. Donc là, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver un système pour faciliter pour les uns et pour les autres, et dans le même outil, dans le même glossaire, les moyens de faire en sorte qu'ils se comprennent mieux. Donc, nous avons un certain nombre d'entrées qui ont été identifiées à travers une collecte de formulaires, à laquelle nous avons ajouté tous les mots qui sont les mots de l'environnement, des migrants, tous ces mots qui font débat aujourd'hui, comme intégration, insertion, assimilation, enfin, par exemple. Et puis, nous avons refait des définitions simples dans un langage qui nous paraît plus facile à comprendre. Donc là, il y aura peut-être perte, probablement, d'ailleurs, aux yeux des spécialistes. Et nous avons fait des piqûres de culture à chaque fois. Donc, piqûres de culture française pour les étrangers qui arrivent, ce qui fait que ce rapport au formulaire n'est pas seulement un rapport magique, ça va marcher ou ça ne va pas marcher, mais c'est déjà une première initiation à la culture française.
Et aux traditions. Par exemple, sur l'acte de naissance.
Par exemple, sur l'acte de naissance, on leur explique comment ça marche. Ça peut être la même chose pour les impôts, par exemple, parce qu'il y a des pays où l'idée même de foyer fiscal est quelque chose d'assez original. Ils ne voient absolument pas ce que ça veut dire. Et puis, des piqûres de culture étrangère pour les gens qui accueillent. Et on explique pourquoi nom, prénom, c'est difficile, pourquoi date de naissance, souvent, on ne peut pas donner vraiment une date de naissance. On est tous nés le 31 décembre pour telle et telle raison.
Peut-être il faut dire que l'une de nos premières grandes aventures surprises, c'était lorsque à Aubervilliers, tous ceux qui reçoivent, tous ceux qui accueillent, dont l'état civil, étaient présents autour d'une table, ce qui est quand même assez rare.
Oui, il y avait 25 personnes.
Il y avait 25 personnes. Il y avait aussi les interprètes, les interprètes officiels. Il y avait évidemment les policiers, mais aussi tous les agents de santé, etc. Bon. Et donc là, tout d'un coup, alors qu'on débarquait et qu'ils ne voyaient pas très bien ce qu'on allait apporter, et d'ailleurs, on n'en était pas sûrs, nous-mêmes, d'avoir quelque chose vraiment à apporter. Et tout d'un coup, en réfléchissant, les agents de l'état civil, il y avait deux, je crois, c'était deux, se sont frappés le front en disant « Ah, mais on comprend pourquoi ils sont tous nés le 31 décembre ou le 1er janvier. » Et en effet, par exemple, les Maliens ont beaucoup de mal à donner une date de naissance. Et très souvent, ils donnent 31 décembre, soit parce que, alors pour des raisons qui tiennent aussi à l'état civil de leur pays, aux difficultés, etc., éventuellement aux bugs informatiques, ça va jusque-là, mais aussi la difficulté de dire, de donner prise sur soi en donnant sa date de naissance. Donc c'est assez complexe. Et là, au fond, ce que nous avons découvert ensemble, tous ensemble, je crois, c'est à quel point l'administration est une chose culturelle. À quel point faire comprendre ce qui se passe administrativement en France, c'est déjà donner accès à la langue et à la culture française d'une manière qu'on dira intégrative, y compris pour nous, Français.
Absolument. Oui, ce sont des strates de culture, enfin, ce qu'on appelle le millefeuille administratif. ce sont aussi des superpositions d'évolution, d'histoire de la France, voilà.
Et tout ça est quand même venu en partie de l'exposition, d'un premier contact que nous avons eu au moment où je faisais l'exposition au MUCEM, qui s'appelait « Après Babel, traduire ». Il y avait un certain nombre de choses, évidemment, sur la traduction, mais on va dire pratiques. Et donc, il y avait une simèse qui donnait, qui posait comme question « quel est le mot qui te manque le plus dans ta langue maternelle ?» Et ou quel est le mot de votre langue maternelle qui vous manque le plus ? Et une simèse symétrique, qui d'ailleurs n'a pas été montrée, qui est quel est le mot du français qui te paraît le plus étrange ? Bon. Et en travaillant un peu pour remplir ces simèses, on a travaillé avec des associations et on a vu que la première impossibilité, c'était nom-prénom. Tous les diagrammes familiaux, les diagrammes de l'état civil, les diagrammes de l'identité et les diagrammes de la date de naissance encore plus ne sont pas les mêmes. Donc ça nous a obligés à réfléchir à ça.
Ce qui est simple en apparence ne l'est pas en réalité. Cela vous amène aussi à redéfinir le rôle de l'interprète dans ces services
Absolument.
Publics qui est un passeur selon vous ?
Oui, oui et un passeur qui est là pour de vrai. Parce que souvent, on demande aux traducteurs d'être transparent dans la plupart des administrations. Or, un traducteur ne peut pas être transparent. Enfin, selon nous, il ne peut pas être personne.
C'est une personne.
C'est une personne.
Il peut guider dans une culture étrangère, par définition, aux yeux des agents d'état civil.
Il peut expliciter.
Oui.
Et c'est, oui, si vous voulez, le rôle de passeur est joué dans nos questionnaires par ce que Daniel appelle les piqûres de culture. C'est-à-dire qu'on décrit ce qu'un terme administratif implique. Et on s'aperçoit que ces implications, son amont et son aval de ce terme, sont évidemment extrêmement propres à la culture administrative française. Et donc, l'un des développements possibles, ça serait de comparer des questionnaires comme ça, administratifs, par exemple français et allemand. On a essayé de faire ça, on n'a pas réussi à mettre ça sur pied encore. Mais c'est quelque chose de très intéressant.
Aujourd'hui, vous travaillez sur quelle langue pour ces glossaires ?
Le soninké, l'arabe, le russe et le persan, enfin le farsi.
L'arabe syrien surtout.
Oui, enfin l'arabe littéraire. Et simplement pour ce qu'on appelle les piqûres de culture, là aussi ce qui est difficile, c'est que nous sommes obligés d'être brefs. Et il ne s'agit pas de faire un cours d'anthropologie. Voilà, donc là aussi la difficulté est d'arriver en quelques lignes à signifier aux Français qui accueillent que la situation est difficile pour leur interlocuteur. Donc ces piqûres de culture, ce sont en fait uniquement des clignotants. Elles n'ont pas de prétention savante.
Et aussi, bon, pour ceux qui reçoivent, et puis pour ceux qui remplissent, on leur explique que c'est normal que ce soit difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière.
Et oui, le chef de famille, par exemple, famille ou chef de famille, c'est toujours l'homme le plus vieux de la communauté. C'est pas forcément
le père de famille,
le père des enfants. Et il faut préciser, comme ils nous disent toujours, est-ce que c'est la grande ou la petite famille ? Parce que même en milieu urbain, cette idée de la grande ou de la petite famille, de la famille élargie ou de la famille nucléaire, elle continue à fonctionner.
Alors, à côté de ces glossaires, vous explorez un autre champ qui est celui des banques culturelles. Vous êtes inspiré de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de ces banques culturelles ?
Alors, elles sont nées en fait il y a maintenant une vingtaine d'années et elles ont été surtout créées à ce moment-là pour essayer de faire en sorte que tous les pillages de biens culturels qui alimentaient le marché de l'art occidental soient moindres. Donc, l'idée a été de déposer un objet tout en facilitant la création d'une petite entreprise, comme ils disent, génératrice de revenus, qui pouvait en même temps contribuer au développement de la région. Donc, c'était des systèmes de petits crédits. L'objet était là, mais l'objet était enregistré avec son histoire.
D'accord.
Voilà.
Donc, c'est une personne individuelle qui arrive avec un objet de sa maison,
voilà,
et qui le dépose.
Qui le dépose.
Contre
elle
un
en
prêt.
Reste, voilà, contre un prêt. Elle en reste propriétaire. Elle pourra le récupérer au moment du remboursement du prêt. Et cet objet est mis et exposé. Et là, les enfants des écoles, les gens du village, des communautés voisines viennent. Et on a vu dans le nord du Mali, surtout un peu avant 2012, à quel point ces banques culturelles ont facilité le dialogue entre des communautés qui commençaient à devenir violentes les unes envers les autres. Elle a joué un rôle pondérateur, la banque culturelle, à ce moment-là. Enfin, celle de Fombouri, du moins. Ce n'est pas le cas de toutes.
Oui, peut-être qu'il faut préciser que Daniel est spécialiste du patrimoine et qu'elle a occupé un certain nombre de
postes. Oui, je me suis
occupée
des questions de patrimoine aux affaires étrangères.
Et donc, le problème, enfin, la question posée, c'est...
Barbara Cassin.
Oui, quel serait le sens de transposer une banque culturelle ici, maintenant, en France? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et c'est là où nous avons été conduites à prendre les choses de plus haut. C'est-à-dire que ça implique de changer l'idée de banque et de changer l'idée de musée.
Absolument.
Donc, c'est ça qui est notre propos avec les banques culturelles que nous essayons de faire sortir de terre aujourd'hui dans un certain nombre de lieux propices, c'est-à-dire propices d'une part à l'intercommunauté, à la pluralité des cultures, Aubervilliers, Marseille, éventuellement Clermont-Ferrand, trois lieux qui, pour l'instant, avec lesquels nous avons vraiment un travail en cours. Et donc, le triptyque sur lequel repose une banque culturelle, c'est objet-récit, objet et récit, les deux étant complètement liés, donc ça ne fait qu'un, hein, objet et récit, projet et microcrédit. Qu'est-ce que le microcrédit va permettre de réaliser? Comment est-ce que ça va permettre de s'insérer ou de vivre en société, dans la société d'aujourd'hui?
Donc il y a une projection vers le futur et l'avenir. On n'est pas dans une optique de conservation.
Oui, c'est quelque chose, vous voulez, qui évidemment change l'idée de musée, en fait, évidemment quelque chose de participatif et quelque chose, justement, de, non pas de passéiste, mais de futuriste. Bon, et quant à changer l'idée de banque, c'est très clair, c'est-à-dire qu'il s'agit de réinventer une notion de valeur. Et c'est ce sur quoi nous travaillons, par exemple, avec le Crédit Municipal de Paris. Savoir combien vaut tel bijou, hein, à l'once d'or, etc., et au travail. Non, c'est pas ça la question. C'est savoir combien vaut tel bijou ou telle recette de cuisine ou tel vase, avec le récit qui implique la personne, le trajet. C'est une biographie d'objet et en même temps la biographie de quelqu'un. Et en même temps la biographie d'une communauté, souvent, et en même temps une coupe sur la société française, aujourd'hui.
Oui.
Donc, c'est une amplitude considérable que ce bouger de la notion de valeur. Que le fait que le récit soit impliqué comme valorisable, ça change tout. Et donc, c'est autour de ça que nous travaillons avec des organismes patentés de microcrédit, comme le crédit municipal.
Vous avez parlé de cette notion de musée, ou même de cette notion de patrimoine, qui sont finalement des notions très occidentales. Et je crois que vous avez particulièrement creusé cette question, notamment dans six langues d'Afrique. Et qu'est-ce que vous avez appris en essayant de comprendre comment les gens là-bas accueillent ces notions et essaient de les traduire?
Écoutez, le point de départ a été un constat. Moi, quand j'ai pris mes fonctions, je me suis rendu compte, en regardant un peu les documents de l'UNESCO, qu'à l'époque, il n'y avait que 7% de biens africains inscrits au patrimoine mondial. Je crois que maintenant, on en est à 11. On a fait des progrès. Et c'était la moitié des biens qui étaient sur la liste rouge, patrimoine en péril, étaient aussi africains. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi ? Et là, en allant un peu plus avant, j'ai regardé le vocabulaire qui est utilisé par le patrimoine mondial. Donc, les critères sont la valeur universelle exceptionnelle, l'intégrité du bien, le paysage culturel. Enfin bon, tous ces concepts, musées. Bon, or, on sait qu'en Afrique, il y a eu des traditions de monstration qui ne passaient pas par les musées. Elles sont autres. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, valeur universelle exceptionnelle, traduit en soninké ou en bambara? Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec des linguistes africains, des gens de patrimoine aussi, et puis l'Académie africaine des langues. Et ça nous a appris, effectivement, la relativité des choses. Et aussi, par exemple, je pense à la remarque d'un des responsables à propos de paysages culturels. On était en train de discuter, on lui disait, mais tu comprends ? Non, ça ne peut pas être traduit par forêt sacrée. Et au bout d'un moment, il dit, mais de toute façon, arrêtez de nous casser les pieds. L'objet n'est pas là. En fait, de toute façon, ce vocabulaire, il n'est utilisé que par les responsables de nos États pour faire comme s'ils étaient comme tout le monde quand ils sont dans les enceintes de l'ONU. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Et on se retrouve avec cet énorme paquet d'incompréhensions avec la question des restitutions. Voilà.
Oui, donc on a fait en fait un livre qui est sorti de ces réflexions collectives avec l'Académie africaine des langues la notion
de musée. De patrimoine.
Et de patrimoine. Donc, on a cherché comment ça se disait dans les différentes langues. Et d'ailleurs, c'est un livre quand même assez exceptionnel, puisque je crois que c'est le seul livre que je connaisse, en tout cas, qui est
publié dans toutes ces langues.
Qui est publié dans toutes ces langues, et d'ailleurs en ligne. Et donc, il est en 5 langues,
bon,
dont le français et l'anglais, mais avec...
Il y a le Bamanakan, le Fulfulde.
Oui.
Et quoi ?
J'ai oublié.
Non, il est en 4.
En 4 langues.
Oui, c'est déjà...
Oui, c'est ça, en 4 langues. Donc voilà. Et on s'est aperçu que, par rapport à la notion même de restitution sur laquelle nous avons travaillé ensuite, au fond, il y avait deux grandes manières de lancer les choses. Ou bien on pouvait dire « Rends-moi ce que tu m'as pris ». Et il y avait des mots pour le dire. Ou bien on pouvait dire « On va partager quelque chose ». Et il y a aussi là des mots pour le dire, et non seulement des mots pour le dire, mais des mots à inventer, qui ont été travaillés,
oui.
Notamment dans des réunions qu'on a eues à Dakar.
Et en réfléchissant, ils se rendent compte que les mots n'est peut-être même pas nécessaire de les inventer.
On peut resémantiser des mots qui existent.
Vous croyez profondément au dispositif de parole dans ce genre de situation ?
Oui. Ouais. En quoi d'autre ? Si vous voulez, en quoi d'autre peut-on croire ? On peut penser, enfin là, avec les restitutions, il se passe des choses assez extraordinaires. Et évidemment, on se cogne à beaucoup d'habitudes. Et c'est extrêmement complexe, en effet, avec les musées, etc. Mais en même temps, moi, j'ai un projet que j'aimerais vraiment, dont j'aimerais vraiment qu'il voie le jour. C'est qu'au moment où on va restituer des objets, on fasse une fête de départ. Si vous voulez, on a d'une certaine manière pillé ces objets, ou on se les est appropriés de manière plus ou moins légale, d'ailleurs, parfois très légale. On les a achetés. Mais quand même, aujourd'hui, ils sont là et ils ne sont pas vraiment là. Ils devraient peut-être être ailleurs. Eh bien, ce qu'on rend, on devrait leur faire une fête d'adieu collective.
Qui serait une première occasion de partager aussi.
Voilà. Un vrai partage. Et par exemple, là, je vais faire à Marseille, à la Vieille Charité, une exposition sur les objets migrateurs. Eh bien, les dernières salles sera consacrée la dernière salle, aux objets à l'arrêt, donc aux objets dans les musées. et puis à l'arrêt et éventuellement aux objets partagés. Et j'aimerais, pour prouver que c'est faisable, qu'un objet restitué, comme le sabre, le célèbre
sabre...
C'est pas
forcément le meilleur exemple.
C'est pas forcément le meilleur exemple, mais bon, c'est celui qui me vient, qui est aujourd'hui au musée de Dakar, revienne un peu, un moment, en France, là, à ce musée, pour qu'on voit que, oui, ça peut être partagé. Et bon, si... Enfin, que tout est à inventer, là.
Cela fait aussi partie, quelque part, du récit de vie de ces objets.
Absolument.
Oui. Nous allons maintenant aborder le dernier chantier qui est assez gigantesque dans lequel vous êtes lancé, celui du dictionnaire désintraduisible des trois monothéismes, parce que vous avez constaté que la question religieuse est finalement fondamentale dans ces incompréhensions.
Oui, enfin, très largement, quand même, c'est vrai que le danger que nous avons à portée de vue, ce sont les fondamentalismes. Et que, en fin de compte, quand nous nous mettons à travailler entre alors, les religions abrahamiques, les religions du livre, enfin, en disons, entre Torah, Bible et Coran, quand nous nous mettons à travailler sur les textes, ça ne se passe plus du tout de la même manière. Et que les uns et les autres... Lorsque nous réfléchissons ensemble sur les textes en langue, donc j'insiste sur le « en langue », c'est-à-dire sur ce que les mots veulent dire, sur ce que les textes, les phrases signifient, eh bien, d'un seul coup, je ne dirais pas que les incompréhensions cessent, mais je dirais, comme tout à fait au début, qu'on comprend à quel moment on ne se comprend plus. Et du coup, on peut travailler. Et si vous voulez, les premières expériences qui ont été faites, c'est véritablement de la recherche-action. Il y a évidemment des scientifiques, on va dire, des chercheurs qui travaillent ensemble. Mais quand on travaille ensemble, quand on fait un séminaire, devant, comme nous l'avions fait parmi les premiers séminaires que nous les avons faits devant, à Marseille, devant les lycées, devant les lycées confessionnels. Quand on travaille sur comment dit-on Dieu ? Dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran, devant un lycée musulman et un lycée juif, il se passe des choses.
Et justement, comment dit-on Dieu dans la tradition juive ? Il y a cette pluralité et cette indicible, et dans la tradition musulmane, une singularité de ce nom d'Allah.
Oui, bah, là, si vous voulez, c'est trop difficile de vous en parler comme ça. C'est véritablement des sujets très, très complexes. Il est vrai que Allah, c'est elle, il a, donc il y a l'article défini qui est devant. Il est vrai que le tétragramme, voilà, il y a de l'imprononçable, de l'indicible, et probablement aussi de l'inscriptible. Donc, bon, et puis, quand on regarde la Bible, eh bien, dans quelle langue a-t-elle été écrite ? Quand on parle un tout petit peu avec des biblistes, ils vous disent « Oh, elle a été écrite en traduction !» Et en effet, quand vous regardez la Bible polyglotte d'Alcala, l'une des premières Bibles polyglottes, vous voyez au centre la Vulgate de Saint Jérôme, donc du latin, à droite et à gauche, vous voyez de l'hébreu et du grec. Et dessous, le cardinal de Cisneros a écrit « Regardez, voilà, le Christ et les deux larrons. » C'est invraisemblable. C'est comme si la Torah n'avait jamais existé. C'est comme si... Bon. Et vous voyez, l'intérêt, c'est de savoir aussi, de pouvoir prendre du recul, et de savoir quel est le rapport de chacun de ces livres dits sacrés à la traduction. Par exemple, moi, j'ai découvert, je ne le savais pas avant de travailler avec un certain nombre de chercheurs, j'aurais dû le savoir, certainement, mais je ne le savais pas, que, on ne traduit pas le Coran, on traduit le sens du Coran. C'est-à-dire que le rapport du Coran à l'arabe est un rapport beaucoup plus fondamental que le rapport de la Bible à quoi ? Au latin de la Vulgate ? Bon. Et même que le rapport de la Torah à l'hébreu, puisqu'il y a aussitôt des gloses qui sont dans d'autres langues tout de suite. Bon.
Oui, donc, c'est pour ça qu'il y a autant de traductions du Coran, en fait.
Oui, parce qu'on traduit le sens.
Voilà. En persan, ils en sont à 78. Enfin, ils étaient à 78 oui. Il y a quelques années.
Oui, mais les premières non-traductions du Coran en persan, c'était un mot sous un mot, interlinéaire. Bon, c'est extraordinaire par rapport au statut du rapport, enfin, par rapport au rapport langue-texte. Bon, déjà, travailler là-dessus, puis travailler sur comment dit-on Dieu, comment dit-on l'autre, comment dit-on croire. Bon, et vous voyez à quel point ça peut ouvrir et déniaiser, défaire des violences et en même temps faire comprendre pourquoi elles existent aussi. Et comment s'en sortir au milieu de ça ? Et faire ça devant des étudiants, des enfants, comme c'est, j'allais dire, soulageant.
Pour conclure, quelle est la place, selon vous, de toutes ces langues que nous avons pu évoquer dans un monde globalisé ? Je crois que c'est une question qui vous tient particulièrement à cœur à chacune.
Si vous me la posez en tant qu'académicienne...
Vas-y, commence, nous sommes...
Barbara Cassin.
Je pense qu'une langue n'est telle que parce qu'il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça que sur mon épée, la devise, c'est plus d'une langue. Plus d'une langue, parce que s'il n'y en avait pas plus d'une, il n'y aurait pas du tout. Et je dirais même que quand on ne flaire pas au moins une autre langue, eh bien on ne sait pas que soi-même on parle une langue. Bon, on parle et on fait comme les Grecs. Et c'est là où moi la question pour moi s'est posée de manière assez vive, c'est que pour les Grecs, eh bien c'est le même mot logos qui sert à dire le langage, la raison et au fond aussi la langue grecque. Et ceux qui n'ont pas le logos, ce sont des animaux ou ce sont peut-être des barbares, c'est-à-dire ceux qu'on ne comprend pas et qui font blablabla. Bon. Donc c'est quand même un statut de l'autre assez violent. Donc c'est au fond, en réponse à ce statut-là, que comme helléniste, je me suis penchée sur la différence des langues. Mais bon, par ailleurs, je pense que l'Académie française défend, c'est son rôle, elle défend et elle illustre la langue française, dans son devenir d'ailleurs, puisque ce qu'il y a de magnifique dans le dictionnaire de l'Académie, c'est que quand il est fini, il recommence. Bon, donc ça c'est magnifique. Mais donc elle défend la langue française et elle doit bien la défendre aussi contre quelque chose qui est de l'ordre de la mondialisation globichique. Là, si vous me permettez, j'aimerais faire deux remarques. La première, c'est sur la nouvelle carte d'identité européenne. La nouvelle carte d'identité européenne, elle demande, et à mon avis c'est parfaitement justifié, qu'il y ait au moins une autre langue européenne dans la carte d'identité nationale, hein, de chaque nation, au moins une autre langue européenne, en tout cas pour dire carte d'identité. Quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui s'est passé en Autriche, ils ont choisi plus d'une langue d'ailleurs. Ils ont choisi de mettre de l'anglais et du français, ou parfois de l'allemand et du français. Bon. Et nous, dans notre nouvelle carte d'identité à laquelle j'ai été confrontée lorsque j'ai été à l'imprimerie nationale et que j'ai vu ça, puisqu'ils sont en train de l'imprimer, donc je l'ai vu en grand, et j'ai vu que, eh bien, nous avions traduit tous les items en anglais. Et c'est tout, juste en anglais. Comme si l'anglais était normalement, légitimement, la seule langue véhiculaire en Europe. Je trouve ça terrifiant. Bon, pour moi, justement, l'une des richesses de l'Europe, comme disait Umberto Eco, c'est la traduction, c'est-à-dire le rapport entre diverses langues de culture. Et au moment où il y a le Brexit, c'est quand même très paradoxal de devoir tout traduire en anglais, alors que je comprends très bien qu'on le fasse pour un passeport. L'anglais, en effet, est la langue globalisée mondiale. Mais en Europe, mais pourquoi ? Bon, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, y compris par rapport à la francophonie. Pourquoi est-ce qu'on dirait encore parler français ? Je me demande bien. Bon, donc ça, c'est ma première remarque. Et ma deuxième remarque, je veux dire, c'est une grande émotion. Parce que lorsque Emmanuel Macron, notre président de la République, dit « Choose France », moi, je peux très bien être d'accord avec lui. Je peux très bien être d'accord avec lui. Pourquoi ? Parce que le style, c'est l'homme, et comme dit Lacan, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. Très bien. Il s'adresse aux investisseurs qui sont anglophones. Bon, parfait. La France est ouverte, venez investir chez nous. Hein ? Choose France. Maintenant, quand, par hasard, j'ai regardé, j'ai vu le fond d'affiche de Marine Le Pen, j'ai vu choisir la France. Alors je me suis dit, c'est fichu. C'est-à-dire qu'on va croire que le français, parler français, parler bien français, eh bien, c'est quelque chose qui relève du nationalisme. Et ça, pour moi, c'est évidemment contre ça qu'il faut s'élever de toutes nos forces. Et là, je pense que l'Académie française aurait raison de s'élever en montrant que parler français, c'est quelque chose qu'on partage en France. Et qu'on partage, pas seulement en France d'ailleurs, et qu'on partage, j'allais dire, non seulement dans la francophonie, mais qui appartient à tous. Parler bien français, c'est le bien de tous. Et ça ne révèle aucun nationalisme exacerbé. Voilà.
Daniel Vosny, sur la diversité des langues dans notre monde globalisé.
Très simplement, pour moi, la diversité des langues, c'est la diversité des mondes. Et je n'ai pas du tout envie de vivre dans un monde unique, homogène. Voilà, je crois que c'est une richesse qu'il faut savoir préserver. Préserver les langues, c'est préserver la diversité des mondes. On est plus riche quand on connaît deux langues que quand on en connaît une. Enfin voilà, c'est aussi simple que cela.
Eh bien, un grand merci à toutes les deux de nous avoir partagé ce projet des Maisons de la Sagesse. Je rappelle le titre de votre livre aux éditions Bayard, « Les Maisons de la Sagesse, traduire une nouvelle aventure ». Et votre association dispose également d'un site internet que vous pouvez aller consulter. Merci et à bientôt.
Merci.
Merci. Thank you.